48 FM Le Mag. Culture,
logement,
environnement,
cuisine, gastronomie.
48 FM.
Emploi, développement économique,
vie associative,
tourisme,
rubrique pratique.
48 FM Le Mag.
Sport, nature, TIC,
citoyenneté,
patrimoine.
Et voilà, retour sur ce fameux mag, 64e mag pour ce début de mois d'avril. C'est pas
de blague.
On vous fera pas de blague, voilà, on vous fera pas de vieux poissons. Aujourd'hui, nous allons accueillir Monsieur Méjean Émilien, qui est président de l'association Cupidon, qui s'occupe de la 33e foire aux célibataires de la Canourgue. Bonjour. Ensuite, nous verrons comment, dans le semaine de la construction saine, comment construire sain à base de chanvre avec M. Rémi Chorda, qui est un artisan messager et qui travaille, lui, spécialement sur les bétons de chanvre. Il nous en dira plus tout à l'heure. Bonjour.
Bonjour.
Et puis, l'harmonie demande avec son chef d'orchestre, M. Éric Loisel, que nous accueillerons pour nous parler un petit peu du concert du 5 avril, le concert de printemps. Et puis aussi des différents projets qu'ils ont, puisque je crois qu'ils vont partir à Wunsiedel, qu'ils font une collecte pour Volterra, qui était sinistrée. Donc voilà, au programme. Mais on va commencer tout de suite donc, par l'association Cupidon, c'est ça ? Alors, on ne vous entend pas, je ne sais pas pourquoi, ça y est.
Voilà.
Oui, ça y est. Ça va mieux, il n'était pas monté le micro. Donc cette association Cupidon qui organise la 33e foire aux célibataires de la Canourgue, en fait cette 33e, ça veut dire 33 ans ?
Ça veut dire un peu plus de 33 ans puisqu'il y a eu deux années dans le passé où ça n'avait pas été organisé.
D'accord, donc en fait, c'est une association qui a 35 ans, c'est ça à peu
voilà,
près l'âge ?
Voilà, à peu près, ouais. La première c'était tout simplement un bal des célibataires qui s'est ensuite transformé par une foire pour dire que c'était surtout le week-end. Donc c'était en 1982 et la date du week-end de Pâques a été choisie pour que tous les ans ça revienne le week-end de Pâques. Pas spécialement une date calendaire, mais voilà, c'était tous les ans le week-end de Pâques, la foire aux célibataires de la Canourgue.
Alors pourquoi le week-end de Pâques ? Parce que c'est lié à une fête religieuse cette...
Non, pas du tout. C'est que ça permet surtout d'avoir un long week-end. C'est un long week-end de l'année.
D'accord.
Où on a le lundi qui est férié pour le temps que les gens rentrent, puisqu'on a des gens qui viennent de tout le grand sud de la France et de Paris, des gens du nord aussi.
D'accord. Alors j'ai oublié de présenter tout à l'heure Aurélie, c'est ma reprise après plus d'un mois de...
D'un mois sans mag,
voilà, je reprends un petit peu.
Où sont les boutons, il ouvre pas
voilà,
les micros,
c'est pas grave. Bon, on va s'y remettre tranquillement. Alors Aurélie qui est avec moi ce midi, bonjour Aurélie. Une petite question Aurélie ?
Oui, une petite question, je voudrais savoir comment, vous disiez qu'il y avait des gens qui viennent de toute la France en fait, comment est-ce qu'on s'inscrit, comment on se tient au courant ?
En fait, on a un site internet qui est foireauxcélibataires.com oui. Où les gens trouvent toutes les infos sur l'association, trouvent tout le programme. Et ensuite, ils se mettent en contact avec l'office du tourisme qui est situé à la Canourgue où ils trouvent les coordonnées donc, sur le site internet. Ils leur passent un petit coup de fil. Donc, le numéro de téléphone, c'est le 04 66 32 83 67. Où là, les hôtesses donc, répondent à toutes les questions interrogations et leur envoie par courrier ou par mail les bulletins d'inscription, les programmes, tout ce que les gens demandent. Quoi.
D'accord. Et une fois donc, qu'on s'est inscrit, on arrive, comment ça se passe
Donc une fois que les gens sont inscrits, ils arrivent. Donc on a un point d'accueil qui est central, vraiment au centre du village. Donc les gens le voient de suite en arrivant. Ils vont là où ils vont faire les derniers papiers d'inscription, faire voir qu'ils sont arrivés. Donc on a un système de bracelet, voir parce qu'on peut s'inscrire soit que pour le samedi, que pour le dimanche ou pour le week-end complet.
D'accord.
Bracelet rose et bracelet bleu, non ?
Voilà. Enfin non, c'est d'autres couleurs, mais c'est dans le même esprit.
D'accord. Hein.
Et là, leur expliquer tout ce qui va se passer durant le week-end.
Oui.
Donc le programme en deux mots. Donc sur le samedi, on a le samedi après-midi au choix... soit une visite guidée des parcs des loups du Gévaudan.
Donc à partir de 13h30.
À partir de 13h30, les gens sont amenés en bus, tous ensemble, tout le monde ensemble, Puis après, ils font la visite et ils reviennent pour le soir, l'apéritif. Ou alors, ceux qui ne veulent pas avoir une visite organisée, il y a une randonnée gourmande qui est organisée sur les alentours de la Canourgue, piétonne, avec un petit goûter proposé.
Mais dites-moi, en fait, ça, parce qu'en fait, sur le fond, on n'en a pas trop parlé. Pourquoi organiser une foire aux célibataires ? On organise une foire à la brocante, une foire, etc. Mais pourquoi faire ça sur les célibataires ? Parce qu'il y a un vrai besoin, le ZER, c'est ça ?
Mais à l'époque, voilà, il y avait un vrai besoin qui est toujours d'actualité. C'est vrai que maintenant, Internet aide beaucoup, mais...
Oui, avec des sites de rencontres, voilà. Etc.
Mythique, mais là, c'est quand même plus convivial, plus amical. Et à l'époque, bon, Internet n'existant pas, ça permettait de favoriser la rencontre lors d'un bal. Et c'est pour ça que c'est resté depuis...
D'accord, donc en fait, c'est un prétexte à la rencontre.
Voilà.
Vous ne mariez pas les gens, vous ne faites pas plus que ça, quoi. Vous offrez pas des week-ends à l'amoureux.
Non, pas du tout. Nous, on force personne. C'est plus un gros week-end de fête.
D'accord.
Où on propose un point rencontre tout le week-end, où là, les célibataires remplissent des fiches
d'accord,
pour pouvoir se rencontrer, d'accord. Se connaître. Il faut savoir que ces fiches, une fois que le week-end est passé, nous, on détruit tout. On ne conserve aucune coordonnée ni rien de personne. Tout est détruit. Comme ça, on garde tout de l'anonymat. Et nous, c'est vraiment un week-end de fête. Il n'y a rien de commercial dans l'organisation. Même d'accord. On a des sites de rencontres qui veulent venir faire leur publicité, leur promotion, on les refuse.
D'accord. Donc en fait, c'est vraiment l'association qui est là. D'accord.
Voilà.
Vous ne faites pas du prosélytisme pour essayer de marier les gens ou les faire rencontrer et faire du business derrière.
Pas du tout.
Vous restez une association loi 1901, non lucrative. Donc, il y a pour prétexte plutôt de faire la fête et de faire...
Faire en rencontrer, parce que du coup, ça permet d'avoir un regroupement de célibataires qui se passe sur le week-end. Donc, ça crée des rencontres.
Mais c'est réservé aux Lozériens ou...
Non, c'est réservé à tout le monde.
D'accord.
Nous, on est ouvert à tout le monde.
Il y a des gens qui viennent de partout ?
Oui, de beaucoup du Grand Sud. Après, on a des gens qui descendent de Paris sur le week-end. Après, c'est beaucoup Bordeaux, Marseille, Montpellier, Toulouse. Ça vient un peu de partout dans le Sud, quoi.
D'accord. Et quelle tranche d'âge à peu près ? On trouve tous les âges ?
Célibataire, on peut se considérer célibataire à partir d'une quarantaine d'années, guerre avant. Donc oui, on est entre 45 et 55 ans.
Donc toutes les Catherine, vous voulez...
Voilà.
Ouais. Catherinette.
Les Catherinettes, oui.
Est-ce que les Catherines,
ouais, les Catherine, excusez-moi,
les Raymond, excusez-moi, les Sophie,
les Catherines qui écoutent. Oui, les Catherinettes plutôt, qui ont le chapeau, quoi, donc elles peuvent venir.
Voilà. À la fois en célibataire, à la canon.
D'accord. Donc après, ce que vous nous disiez tout à l'heure, les randonnées gourmandes, les visites guidées, en fait, c'est des prétextes pour que les gens se rencontrent dans le bus.
Voilà, se rencontrent et des moments de calme pour qu'ils puissent engager des discussions, faire connaissance, tout simplement.
D'accord. Et la randonnée gourmande dans quel sens ?
Gourmand dans le sens d'avoir un goûter pour ça fait une pause au milieu de la marche.
D'accord. Ça fait un point de fixation.
C'est pas une dégustation, c'est pas...
Goûter, dégustation, goûter, charcuterie de pays. D'accord.
Très bien. Alors après, je vous ai coupé, vous disiez 18h apéritif.
Donc 18h apéritif, juste avant le repas, donc un repas du terroir donc le samedi soir. Et ensuite, un bal, donc repas servi assis à table, où les gens peuvent se poser, justement, discuter avec leurs voisins, faire connaissance. Et ensuite, juste après, le bal animé par les Pat Chris Paul, donc un orchestre de 6 musiciens, où là, c'est la fête, quoi. Hein.
Oui.
Les gens dansent, ils font connaissance comme lors d'un bal. Ensuite, le samedi est bouclé.
Et vous vous installez où pour le bal ? Parce que du coup, vous avez une grande salle.
On s'installe à la salle des fêtes.
D'accord,
à la
canne.
Voilà. Grande salle des fêtes,
oui. Oui, qui est assez grande.
Ouais, ouais.
Et en général, ça concerne combien de personnes ? Parce qu'on n'a pas trop d'idées.
Le samedi soir, sur le repas, on a entre 120 et 150 personnes. Ça varie selon les années. Et ensuite, le bal, ça monte, puisque c'est ouvert ensuite à la population. Tout le monde vient faire la fête. Ça monte à 200, 300 personnes. Ça dépend un peu aussi des années.
D'accord. Et combien vous avez d'inscrits à peu près chaque année sur
chaque année, on a une centaine d'inscrits.
Une centaine d'inscrits.
Qui viennent sur le week-end, quoi.
D'accord. Et qui sont et qui se logent après indépendamment.
Qui sont, le logement, ils se logent sur les hôtels du village ou des alentours, parce que quand tout le monde est complet,
Donc ça amène aussi une activité intéressante sur le village de la Canourgue.
Mais voilà, sur le village économiquement, pour le week-end de Pâques, c'est intéressant. Hôtellerie, restauration, puisque nous on assure la restauration du samedi soir au dimanche soir. Ensuite, donc le dimanche midi, les gens vont manger où ils en ont envie. Donc principalement, ils vont manger au restaurant.
D'accord. Donc après le dimanche matin, où vous refaites un accueil.
Donc le dimanche matin, voilà, on en rouvre l'accueil pour les gens qui arrivent le dimanche matin. Ou si des gens sont présents, ont des questions, ils vont à l'accueil, ils ont tous les renseignements nécessaires. On propose un marché de pays qui dure sur toute la journée. Une visite guidée du village de la Canourgue pour les gens qui le veulent, c'est gratuit. Et une initiation à la danse pour les gens qui ne savent pas trop danser, voilà, leur expliquer les quelques pas de danse.
D'accord. Des conseils pour éviter de marcher sur les pieds,
voilà,
la dulcinée.
Voilà. La future dulcinée.
Ensuite, à midi, donc, il y a un apéritif offert autour du marché par l'association avec le tirage de la tombola. Donc là, ensuite, les gens vont manger où ils en ont envie, avec qui bon leur semble. L'après-midi, on organise un thé dansant, donc pareil, pour favoriser la rencontre autour de la danse. Donc là, c'est plus musette, rétro-musette. Le soir, apéritif, de nouveau. Et le dimanche soir, pour clôturer, on remet, comme il y avait les années précédentes, ça faisait 3 ans qu'on ne le faisait plus, un dîner-spectacle avec une soirée cabaret. Donc là, les gens sont assis, comme au cabaret, ils regardent le spectacle pendant le repas, et ensuite, soirée dansante, bal variété.
Avec un bal.
Voilà.
D'accord. Et vous savez si... alors oui, en fait, on sait que vous avez eu plusieurs chaînes d'information qui sont venues vous voir, notamment voilà. TF1 il y a quelques années, puis je pense que chaque année, vous avez des petits reportages.
Tous les ans, on a des petits reportages, donc il faut savoir que... nous ne communiquons pas, nous, la liste des participants. Ils nous le demandent tous les ans, mais nous ne le faisons pas parce que ce n'est pas commercial et on ne veut pas déranger les gens qui viennent la fête.
Vous voulez garantir une certaine discrétion, de toute façon.
Tout à fait, on garantit une certaine discrétion et la télévision vient en tant que journaliste faire des reportages, mais nous, on ne communique pas la liste des participants, tout ça.
Qu'est-ce qui fait qu'un événement comme ça dure depuis 33 ans et est toujours d'actualité ?
La motivation des équipes. Moi, j'ai repris la présidence il y a 3 ans pour essayer de maintenir la fête. L'équipe a changé de moitié donc il y a 3 ans. Et avec l'ancienne équipe, la nouvelle équipe, ça a redonné un dynamisme pour redévelopper, refaire connaître. Et puis, c'est une histoire... moi, j'ai toujours connu cette fête-là. Donc, je ne voulais pas que ça s'arrête. Et c'est le week-end de Pâques, c'est la foire célibataire. Voilà, donc, on essaye de maintenir la tradition, si on peut dire.
Oui, il n'y a rien de...
une jeune tradition.
Il n'y a rien de traditionnel, oui, c'est ça.
Voilà.
C'est une animation qu'il y avait dans ce village qui était porteuse et que vous vouliez garder sur ce village.
Et qu'on essaye de maintenir. Ouais.
Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu, j'imagine que vous avez quand même des retours, est-ce qu'il y a eu des réussites?
Il y a eu des réussites, mais nous, après, on ne suit plus les gens.
Vous ne savez pas forcément.
Les gens, s'ils se connaissent, s'ils veulent nous faire savoir qui se marie...
Et dans votre équipe, il n'y en a pas qui...
Non, nous, dans notre équipe, non, il n'y en a point. Et après, on ne suit pas les gens à les questionner tous les ans.
Je voulais savoir si vous avez envoyé un petit mot.
S'il y avait des enfants de Cupidon.
Voilà, mais si... non, on ne sait pas spécialement les retombées. On sait qu'il se fait des rencontres. Ça, on le sait le soir du week-end. Après, est-ce que ça dure pas ? Les gens ne nous informent pas spécialement.
C'est vraiment ça.
D'accord.
Monsieur Rémi Chorda, vous y êtes allé déjà là ?
Ah non, moi j'ai le bonheur d'être marié avec la femme idéale. Donc, puisque c'est moi qui l'ai.
Bien joué.
Alors si madame entend, bravo. Ça, c'est un beau compliment.
Bien joué.
Bravo, monsieur Chorda. En même temps, pourquoi pas, c'est pas...
Oui, vous pouvez l'emmener au bal danser.
J'ai été célibataire, j'ai participé à d'autres bals et j'ai fait des rencontres bien avant de rencontrer mon épouse. Mais voilà, c'est une bonne initiative. Il faut bien que les célibataires se rencontrent, sinon on va où ?
Ouais. Est-ce que vous savez s'il y a d'autres foires aux célibataires comme la vôtre en France ou pas ?
Mais ils s'ancrent de plus en plus, qui sont devenus commerciales. En fait, l'idée a été reprise par différentes associations pour essayer de gagner de l'argent vraiment commercial, alors que nous, ce n'est pas du tout commercial.
Oui,
et ils s'en créent de plus en plus en France pour gagner de l'argent au niveau commercial. Donc, on a eu l'amalgame, il y avait eu l'amalgame il y a 5 ou 6 ans avec une foire dans le sud de la France, je ne sais plus où exactement, où ils avaient dit on est partenaire de la foire aux célibataires de la Canourgue, alors que pas du tout. Et eux, c'était vraiment pour faire que du commercial, avoir des fichiers clients. Voilà.
Vous, vous ne mettez pas en place un système de table sur lequel les célibataires se rencontrent ou piochent dans un chapeau?
Non, on ne fait pas ce genre d'animation. Nous, on a juste le point rencontre.
Un speed dating, voilà.
Non, on n'a pas, on ne fait pas.
Ça ne vous est pas demandé, non?
Non, ça ne nous est pas trop demandé. Au niveau organisation, c'est très dur en plus à mettre en place, puisqu'il faut que les gens veuillent participer. Alors, ce n'est pas spécialement évident. Nous, le seul moyen de se rencontrer, on va dire, plus, c'est sur notre petit point rencontre, notre point rencontre, où là, voilà, il y a chacun marque sa description et peut lire la description des autres. Donc, il dit ce qu'il a envie de dire sur lui. Et les gens donc lisent ce qu'il a envie et après ils ont un badge pour pouvoir se reconnaître parce que bon après c'est évident.
Vous nous aviez dit ça allait en gros de 40 ans à jusqu'à quel âge?
De 40 à 60, 70 ans. Après on n'a pas de limite d'âge.
Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. On peut se rencontrer à n'importe quel âge.
Tout à fait, ouais.
C'est bien. Alors ce sera le 19 et le 20 avril prochain.
C'est ça.
Voilà, il reste de la place?
Pour le moment, oui. Ouais. Encore, là, ça se
remplit.
Ça commence à bien se remplir.
Oui, d'accord, ouais. Très bien. Donc, on redonne peut-être les coordonnées pour nos auditeurs qui voudraient y participer.
Oui, il faut contacter l'Office du tourisme
de la Canourgue,
donc oui, au 04 66 32 67 83 67. Donc, je répète, 04 66 32 83 67. À savoir que vous pouvez vous inscrire donc ou surtout le week-end ou pour toutes les animations du samedi ou les animations du dimanche soir. Et ensuite, les repas et les bals sont ouverts à tout le monde le jour même.
Et les tarifs, par contre, on n'a pas trop parlé.
Au niveau du week-end, c'est 90 euros le week-end et ça comprend toutes les animations.
Et les repas aussi?
Les repas.
D'accord.
Il n'y a que l'apéritif qui n'est pas inclus. Pour le samedi ou le dimanche, si les gens ne veulent venir qu'une journée, c'est 50 euros la journée.
D'accord, avec les repas compris.
Avec les repas les compris. Animations. Et les entrées au bal.
D'accord. Bon,
et on peut retrouver quand même, je redonne votre site internet, donc foire aux célibataires au pluriel avec des petits tirets du 6 entre foire aux et célibataires.com.
Voilà, tout à fait.
Eh bien, merci beaucoup à monsieur Abbé, à vous, et puis à monsieur Méjean, Emilien, et puis à votre association, et puis bonne continuation. Et
on espère
que. Voilà, il y a un beau succès pour cette année, cette 33e édition.
Tu iras, toi, voilà. Peut-être, non?
Non, je pense pas. Non.
Peut-être. Ça peut être sympa.
Voilà.
Très bien, merci. Merci une coupure musicale avec Ben Harper. When the people lead, the leaders they will have to follow. And all their lies and their alibis they will have to swallow. And it's you that has the authority. For the one who is right is the majority. When the people lead, people take the lead. Children, you got to take your lead, or you shall be led astray. So as long as someone else controls your history, the truth shall remain just a mystery. But you can lead a horse to the water, you cannot make him drink. You can put a man through school, but you cannot make him think. When the people lead, people take the lead. Children, you got to take your lead, or you shall be led astray. Ah!
watch them try to hide this world's imposition. But like disease that has come round from remission, and when it seems as if it has left your person, all the while, Lord, it has haunted worsen. When the people lead, people take your lead. People take the lead. People take the lead. People take the lead. People take the lead. Children, you got to take your lead. Oh yeah.
Sur notre émission, notre mag, avec cette deuxième partie consacrée à la semaine de la construction saine. Qu'est-ce que c'est la construction saine, monsieur Rémi Chorda, spécialiste artisan?
La construction saine, c'est une construction où les murs respirent naturellement, une construction où on peut se mettre à l'abri des allergies et des problèmes pulmonaires qui sont dus à des COV ou à des particules de laine minérale qui volent dans les maisons, etc. etc. Bon, c'est un concept.
D'accord, c'est un concept de vie et de construction d'un habitat sain, c'est ça ?
Concept de vie, oui. Concept de construction aussi. Après, c'est toute une question de moyens. Parce que c'est sûr, ça va coûter un peu plus cher.
D'accord.
Mais on va faire travailler des artisans locaux, on va faire travailler des industries locales. Et je ne sais pas s'il ne vaut pas mieux payer un petit peu plus cher et faire travailler du monde autour de nous, qu'acheter des matériaux à bas prix à l'étranger et payer plus d'impôts et plus de charges pour financer les assurances chômage. C'est tout un état d'esprit, chacun fait son choix.
Alors vous êtes venu nous parler un petit peu de tout ça, les matériaux sains, la terre crue, le champ. Vous faites partie de la CAPEB, qui est un syndicat ?
La CAPEB, c'est un syndicat qui défend les artisans, les petites entreprises du bâtiment.
Oui.
Et la construction saine a commencé ce matin à la CAPEB. On initie des élèves justement aux matériaux biosourcés, aux constructions bioclimatiques, aux contraintes de la construction liées à l'ERT 2012. Il faut savoir qu'une maison, l'ensemble des maisons consomme plus d'énergie que l'ensemble du transport routier en France. Donc, il est grand temps de faire quelque chose pour limiter la pollution. Et là, aujourd'hui, on initie une classe de quatrième à ça.
D'accord, donc c'est
les enfants
plutôt du collège.
Ça, c'est les artisans messagers. Et aujourd'hui, notre 10 000e élève est en train de faire son passage avec les artisans messagers au Cosse d'Auge.
Donc, pour bien expliquer, en fait, la CAPEB, c'est un syndicat qui a beaucoup de missions, mais parmi ces missions, ça a été depuis pas mal d'années de sensibiliser les enfants, les futurs acheteurs ou constructeurs, en fait, à construire sainement, à construire avec des matériaux soit recyclés, soit des matériaux qui viennent du développement durable, c'est-à-dire des matériaux qui viennent, de produits naturels comme le chanvre ou comme le bois ou comme d'autres matériaux comme ça. Et donc d'initier un mouvement d'ampleur pour que les gens prennent conscience que quand on bâtit, ben, c'est pour des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'années, et qu'il faut faire, et que quand on fait des choix, c'est pas seulement le portefeuille qui commande, c'est aussi, comme on vient de le dire, la qualité de vie, la qualité de l'air, de son environnement, et la durabilité de cette construction. Donc vous venez nous parler du béton de chanvre. Qu'est-ce que c'est exactement ce béton de chanvre ?
Le béton de chanvre, c'est un mélange de chênevotte, Le chenevote, c'est de la tige de, du chanvre qui est broyée avec de la chaux.
D'accord. Donc il n'y a pas un, véritablement de ce qu'on appelle de mortier à base de...
Non.
Oui, on dit béton, mais en fait, finalement, ça n'a pas l'air d'être voilà, béton.
Parce que le terme
béton désigne voilà. un agrégat et un liant. D'accord. Quel que soit l'agrégat et quel que soit le liant.
D'accord.
Alors, on a le béton qui est fait avec du sable, du gravier et du ciment. Mmh. On ne pourra pas tourner le dos à ce produit parce qu'il faut quand même des points de résistance sur, la, sur les maisons. Et bon, c'est un peu comme l'allopathie et l'homéopathie. On ne peut pas tourner le dos à tout. Mais le béton, ça peut être aussi de la chaux et de la chenevote.
D'accord. Et du coup, ces produits-là dont vous nous parlez, comment est-ce qu'on les met en œuvre ?
Ah, ben ça.
On fait appel à son artisan ou est-ce qu'on peut le faire soi-même ? Comment ça se passe ?
On peut le faire soi-même, mais il faut connaître les règles professionnelles. Voilà. Et pour ça, il faut, suivre des formations. Ouais. Mais bon, généralement, quand on veut avoir un bon résultat performant thermiquement, on est un peu obligé de passer par un artisan parce qu'il faut une mécanisation qui est assez onéreuse quand même et qui permet d'avoir un résultat thermique nettement supérieur à l'application manuelle.
D'accord. Donc, en fait, c'est vous qui le fabriquez sur place ou est-ce que ça arrive en sac tout prêt et on n'a plus qu'à mélanger ?
Ben, la chaux arrive dans des sacs et D'accord. la chenevote arrive dans des sacs aussi.
D'accord. Et après, on fait le mélange comme on mélange du sable et...
Voilà, ça se mélange tout seul avec la machine et c'est projeté sur les murs pour faire l'isolation ou c'est benché quand on veut faire une maison entière avec ce produit.
Donc en fait, on peut construire carrément des murs en béton de chambre.
On peut construire, on peut faire du neuf, ossature bois et béton de chambre, et on peut faire de la rénovation. C'est, à mon avis, plus approprié dans la rénovation parce que ça permet d'avoir une efficacité thermique importante, un confort thermique important, et garder une cohésion pour le transfert hydrique de l'eau,
entre les murs,
de l'intérieur à l'extérieur. Ouais. Il n'y a pas de rupture avec des points qui ne sont pas collés, c'est tout homogène. Le mur fait qu'un.
Le mur fait qu'un
Ne fait qu'un.
Ne fait qu'un, d'accord.
Eh oui,
un mur fait qu'un.
J'ai un mur fait qu'un, il y a des mots comme ça. Voilà.
On s'est dit, c'est technique.
C'est comme les mets locaux.
D'accord. Ouais, j'en ai vu, c'est vrai que ça donne des formes, ça donne des couleurs et des aspérités un peu différents. Hein. Ça fait un genre de moirage sur le mur, le béton de chambre.
Oui, on peut s'en servir de la décoration. Ceci étant, on n'est pas obligé d'utiliser du béton de chambre pour la couche de finition.
On peut utiliser
un mortier de, la chaux, de sable chaud ouais. ou du béton de chanvre ou de la terre crue. Et vendredi, c'est la journée destinée à la terre crue et il y aura du monde pour parler de la terre crue et on pourra mettre la main à la pâte, si je peux m'exprimer ainsi, pour faire des essais, quoi, toucher la matière, l'appliquer manuellement sur des supports qu'on va mettre en place.
Alors, on a le sentiment qu'on revient vers des matériaux qu'on utilisait, parce que ce n'est pas nouveau, le champ.
Ah, ou la terre crue, oui.
Non, ce n'est pas nouveau. Hein. Partout où on voit une rue marquée Canebière, c'est parce qu'il y avait des chanvrières sur place, et ça s'appelait Canebière à cause de ça. Hein. Le chanvre a toujours servi à faire du tissu, des cordes.
Oui, oui, tout à fait. Ouais.
De la filasse pour les staffeurs, pour les plombiers.
Et alors le chanvre, on en trouve en France,
La France est le premier producteur de chanvre. Et on a des producteurs dans
l'Europe. En Europe ou dans le monde ?
Dans le monde.
Ah, dans le monde. D'accord.
Et on a des producteurs de chanvre dans le Gard qui seront là présents demain à la journée là, pour nous parler un petit peu de leur production. Et
Donc en fait, c'est un matériau qui est assez présent sur le territoire, qu'on peut se procurer assez facilement, c'est ça ?
Oui.
La chaux aussi, avec la chaux de Saint-Astier ou la chaux pas très loin.
Les chaux tradicales, les chaux Saint-Astier, puis après il y a des chaux locales pour de favoriser la filière courte.
D'accord. Donc c'est un petit peu ce que vous proposez en fait dans ces découvertes.
C'est un petit peu ce que je privilégie, ce qu'on privilégie à la CAPEB. La filière courte, il me semble que c'est l'avenir parce qu'on n'a pas besoin de polluer, d'encombrer les routes avec des camions. Si on peut avoir les matériaux sur place, autant en profiter. Quoi.
Mais alors, enfin, moi j'ai le sentiment, ayant construit il y a quelques années, que c'est quand même difficile de trouver un artisan qui utilise ces matériaux ou qui les propose aujourd'hui parce qu'on voit se construire, enfin, je ne sais pas quels sont les taux, mais peut-être que vous le connaissez, 9 maisons sur 10, c'est des maisons en béton avec une isolation en laine de verre et puis du placo mur ou du placo plâtre, quoi.
Oui.
Donc pourquoi on en est encore là alors qu'on parle de maison traditionnelle ? Il y a rien de traditionnel dans le béton, finalement ?
Non, dans le béton, il n'y a rien de traditionnel. Le béton a 100 ans, la chaux en a 2000 ans. Donc
c'est juste une question de formation et de pratique ?
Non, c'est une question de lobby industriel et de distribution. Aujourd'hui encore, nous, applicateurs de béton de chanvre, on a des problèmes pour avoir de la chenevote et de la chaux en stock chez nos fournisseurs.
Donc ça veut dire que les fournisseurs...
Ça veut dire que quand on a un chantier à faire, il faut qu'on commande, il faut anticiper, chiffrer, évaluer, commander. Et le fournisseur veut bien faire le bénéfice, mais il refuse d'avoir du stock dans son dépôt, quoi.
D'accord.
Donc c'est des gens qui ne font pas leur métier, c'est pour ça qu'on recule.
Donc c'est une question d'offre et demande, mais c'est aussi une question de volonté politique des fournisseurs qui...
Ben, je les comprends un peu. Ils ont un business, eux, ils voient la marge bénéficiaire et puis le débit.
Oui, mais enfin, c'est le serpent qui se mord la queue parce qu'on ne peut pas augmenter les marges si on ne fait pas un effort ou si on n'investit pas un peu, quoi. Enfin, il me semble, non ? Si on veut que ça se développe. Parce que les marges sont plus importantes sur du béton de chanvre que sur du parpaing.
Oui, moi, je crois que pour développer, il faut en parler. Et pour en parler, il faut le faire revoir. Et puis,
il faut construire avec.
Je crois qu'il faut mettre un petit peu de côté le côté financier. Il faut mieux se poser la question, qu'est-ce que je vais laisser derrière moi ? En termes de pollution, en termes de maison à recycler, en termes de sécurité. Demain, on va faire une démonstration de résistance au feu des murs en béton de chanvre.
Oui, donc ça, c'est intéressant parce qu'on a aussi beaucoup d'a priori sur les maisons en bois, sur les maisons en béton de chambre. On dit oui, mais ça va brûler comme de la paille. Donc tout ça, c'est des idées reçues, c'est ça ?
Moi, j'invite tous les gens qui ont ces idées reçues à venir au Coste d'Auge demain, voir...
Donc demain, à quelle heure ?
Demain, à 10h, on met le brûleur de la chaudière en marche pour mettre le feu à un mur en béton de chambre.
D'accord, et voir combien de temps ça met pour brûler.
Voilà, alors si on aura le brûleur d'un côté du mur, sur un enduit en terre crue. Et de l'autre côté, on va braquer une caméra thermique qui va nous retransmettre sur un écran l'évolution de la montée en température.
D'accord. Et donc ça donne quoi ? Parce que vous l'avez déjà fait ?
Ah, je n'ai jamais fait, non. Je ne sais pas ce que ça va donner.
Et vous ne faites pas la même chose avec un mur en placo-plâtre ?
Non, je ne veux pas décrire les autres produits parce qu'il y a des gens qui, malgré tout, ont besoin du placo-plâtre et de la laine de verre. Quand on ne peut pas s'isoler avec un matériau qui coûte cher, on s'isole avec un matériau qui ne coûte pas cher. Même si le travail est à refaire dans 10 ans. Pendant 10 ans, on aura toujours été isolé.
Ouais. Mais du coup, vous parlez de... Voilà, de coût. Est-ce que ce n'est pas un frein aussi aujourd'hui, le coût dans... Parce que si je construisais une maison aujourd'hui en béton de chambre, avec, je sais pas, par exemple, des murs en briques, et puis un enduit à l'intérieur en béton de chambre, ça me revient à combien finalement plus cher ? Je veux dire, une maison hors d'eau, hors d'air, hein, sans la finition intérieure.
Hors d'air, ça va revenir à 10-15% plus cher.
Seulement 10-15% plus cher.
Je veux dire que
le béton
de chanvre, c'est un matériau qui est pérenne. Dans 800 ans, il sera toujours du sol au plafond. Qu'une laine minérale sera du sol...
Au sol.
Jusqu'à mi-hauteur.
Donc, il y aura
quand même des décollages. Alors, peut-être pas de partout, mais le minimum, c'est le scotch qu'on met entre chaque bande de laine minérale qui tombe. Ça, c'est 100% garanti. 2 ans après, le scotch, il est tout en bas. Et il n'y a plus de lien, il n'y a plus de joint d'étanchéité à l'air parce que c'est par terre. Et donc, ce n'est pas du tout pérenne.
D'accord, justement, donc 10 à 15%, vous parliez aussi du bâti ancien. Et dans le programme là, du mercredi 2 avril, je vois qu'il y a aussi justement toutes ces questions d'amélioration énergétique et compatibilité avec le béton ancien. Parce qu'à chaque fois, Nico dit, quand on construit une maison neuve, mais si j'ai bien compris, ça sert aussi beaucoup pour de la rénovation.
Oui, oui.
Amélioration énergétique du bâti ancien grâce à la mise en œuvre de ces produits traditionnels.
Ah oui, de plus en plus, parce qu'on n'est pas obligé de charger 20 cm pour obtenir un confort thermique important, même si on n'arrive pas au R voulu par la réglementation thermique.
Donc là, vous nous avez parlé tout à l'heure de la RT 2012. Qu'est-ce qui change, en fait, depuis l'année dernière, en gros ?
Depuis l'année dernière, on m'en demandait beaucoup. Ça change tous les jours, la RT 2012.
Ah.
C'est un véritable 2012, casse-tête.
Mais en fait. Non, mais en termes de degré des désolations, on va dire ça comme ça. Parce qu'avant, il fallait au moins 20 cm de laine de verre, c'est ça ?
Un plafond.
De laine de roche. en plafond.
Oui, là, il en faut 40.
Il en faut 40 aujourd'hui, ouais. Donc ça double.
Ça double, oui.
Donc là, par exemple, avec une laine de chanvre, est-ce qu'on arrive à diminuer l'épaisseur ou pas vraiment?
Non, on n'arrive pas à diminuer l'épaisseur. En revanche, on supprime le phénomène du tassement, on supprime le risque de je peux dire, parce que la laine de verre, quand elle se
de volatilité,
mouille, quand elle se mouille, la laine de verre, elle est foutue. Donc si on a 40 cm de laine de verre en plafond et puis qu'il y a une tuile qui casse, tout ce qui a été mouillé, il faut le changer et le jeter. Et ça ne se fait jamais. Hein. C'est mouillé, ça séchera, puis voilà. Une fois que c'est sec, ça ne retrouve pas ses performances isolantes. Alors que la laine de chanvre, oui.
D'accord, c'est un matériau qui vit, quoi, qui voilà. Résure.
Puis bah, c'est un matériau biosourcé. Je ne connais pas de matériaux, à part les matériaux biosourcés végétaux, qui nous produisent de l'oxygène pendant leur fabrication. Et en même temps, on stocke du CO2.
Alors, ouais, faut savoir ça enferme du CO2.
Si on veut participer à lutter contre le réchauffement climatique, ou si on veut se contenter d'habiter, voilà, le temps de notre passage sur Terre, d'habiter dans une maison confortable, et puis après, une fois qu'on
est mort, parliez aussi peut-être vous parlez aussi des risques quand même, parce qu'il y a des pollutions qui sont liées à ces matériaux, comme la laine de roche ou la laine de verre, à la volatilité de ces microparticules.
Il y a des microparticules, oui, qui volent. On voit souvent autour des prises de courant, par exemple, souvent des traces noires. C'est tout simplement la laine de verre qui est derrière les cloisons, qui sort par là, c'est que de la micropoussière, hein. Mais bon, c'est...
Mais qu'on respire.
C'est toxique.
D'accord. C'est vrai qu'il y a une étude qui a été démontrée il n'y a pas très longtemps.
J'ai un rapport de l'INSERM qui classe la laine de roche comme cancérigène et la laine de verre qui est suspectée de l'être.
Mais bon. Et qui est interdit dans beaucoup de pays d'Europe déjà.
Dans beaucoup de pays, c'est interdit. Même en France, on va faire comme l'amiante, on atteindra la dernière limite.
Donc vous nous conseillez la laine de chanvre. Vous nous conseillez le béton de chanvre, matériau sain.
Et la terre crue ?
Et la terre crue, voilà, pour les enduits à la terre crue. Alors, la première question, c'est de dire, oui, mais si jamais j'arrose mon mur, la terre, elle ne va pas couler, que ça ne va pas donner des traces comme
ça. Quand vous avez un mur en plaque au plâtre, le matin, vous venez, vous l'arrosez, vous.
Non, mais dans une chambre, par exemple...
On n'arrose pas un mur. Pourquoi vous l'arrosez un mur ? À part pour le réinduire.
Non, c'est pas de l'arroser, mais il peut être
une inondation,
humidifié,
allez,
il peut être, je sais pas, une fuite d'eau dans une. Comment on répond à ces questions qui sont récurrentes, je pense.
Oui, ben, la terre crue, c'est pas un problème parce que la terre crue qui est tombée, vous la prenez, vous la remouillez, vous la réappliquez au mur et ça remarche aussi bien. C'est vrai que c'était un risque.
C'est une crainte, bon, des gens, je pense.
Un dégât des eaux avec du placo, vous virez le placo, vous le remplacez aussi.
Ah oui,
alors, si vous ne voulez pas ça, vous faites des beaux enduits en ciment artificiel. Mais là, il faut vous attendre à avoir de la condensation sur vos murs, parce que c'est un mur qui ne va plus du tout respirer. Il va laisser passer l'énergie, il va garder l'eau à l'intérieur.
On peut remettre aussi une peinture à la chaux dessus, non ?
Sur la terre crue, on met souvent de peinture à la chaux.
Oui, hein. C'est ça. Hein. Qui stabilise un petit peu le mur. Parce que souvent, enfin, le problème peut-être de ces matériaux, c'est l'effet de trace, quoi. Quand on va passer dessus ou se frotter ou...
Ah, sur les enduits à la chaux,
ouais.
Il y a la caséine, qui est la protéine du lait, qui est un matériau naturel
et qui fixe
un stabilisateur, qui empêche la chaux de partir.
Donc un verre de lait dans un seau de chaux. Et...
Un verre de lait crémé, alors. Parce qu'il faut utiliser la caséine, lait. Mais pas le gras.
De petit lait, c'est ça.
Je ne sais pas si dans le petit lait, il y a la caséine.
Si, il reste la caséine. Ouais. Il reste la caséine.
Mais l'avantage de la terre crue, c'est que ça va amener de l'inertie à la maison.
C'est-à-dire que quand on va chauffer la maison, la terre, elle va se...
Ça va emmagasiner
la chaleur et la restituer une fois qu'on arrête de chauffer.
Ça va la restituer quand le chauffage baisse.
D'accord.
Ou quand le poêle s'éteint, la nuit par exemple. Le matin, vous avez les murs qui vous restituent la chaleur qu'il a accumulée toute la journée pendant la période de chauffe.
D'accord.
Ça permet d'allumer le chauffage un peu plus tard dans l'année parce que ça a quand même emmagasiné la chaleur de l'été. Et de l'éteindre un peu plus tôt en fin de saison parce qu'on est encore bien dans la maison, on n'a pas besoin de chauffer.
D'accord. Donc, en fait, on a un effet un peu de maison passive qui restitue la chaleur emmagasinée dans les matériaux de la maison elle-même.
Ah ben oui, si on associe tous ces matériaux avec une conception bioclimatique, profiter des énergies passives, du soleil, s'abriter avec...
Est-ce que ce n'est pas un petit peu ça le problème aujourd'hui ? Est-ce qu'on n'est pas assez dans la construction de la maison ? Est-ce qu'on n'est pas assez sensible aujourd'hui d'abord à l'orientation de la maison, à la façon de la construire, certes avec les matériaux, mais déjà dans son orientation, dans sa taille ? Est-ce qu'on n'est pas sur des maisons trop grandes au début qui deviennent de ce fait difficilement chauffables ou habitables. Et est-ce qu'il ne faudrait pas repenser un petit peu à la fois la taille et la façon de construire, enfin l'orientation et s'orienter vers des mesures plus bioclimatiques. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Tout ça s'est pris en compte en RT 2012. Maintenant, on est obligé de fournir une étude thermique, une étude bioclimatique avec le permis de construire. Pour l'orientation de la maison, on n'aura pas un permis de construire sur un terrain qui est orienté plein nord, qui n'est jamais ensoleillé. Parce qu'on n'arrivera pas à faire une maison performante.
D'accord, donc ça c'est déjà intégré sur l'arrêté.
Ça c'est déjà pris en compte, oui.
D'accord.
Alors, juste pour conclure, on va rappeler que donc, c'est la semaine du développement durable, du 1er au 7 avril. Que tous les gens qui veulent venir vous rencontrer peuvent venir faire les visites de chantier, la point de rendez-vous à la Maison des Artisans sur le Causse d'Auge, et que donc le programme c'est mercredi 2 avril, donc le bâti ancien, le béton de chanvre, et le vendredi 4, la terre crue.
La terre crue, oui.
J'ai tout suivi.
Oui.
Bon, parfait.
C'est bien, vous pouvez venir.
Donc c'est jusqu'à quand? Jusqu'à samedi?
Ça se termine vendredi soir.
Vendredi soir.
Vendredi à la terre crue. On a des outils pour tous les gens qui veulent venir essayer la terre crue.
Ouais, se rendre compte.
Il y aura des supports.
C'est à quel endroit, vous avez dit?
Au Causse d'Auge.
À quel endroit?
À côté de la déchetterie, à Mandala.
D'accord.
Il y a le rond-point après la déchetterie. C'est la première route sur la droite après le rond-point.
D'accord. Maison des artisans.
À la maison des artisans.
Voilà.
Voilà. Qui a été construite, qui est une maison exemplaire.
C'est une maison exemplaire qui a été construite par des artisans locaux avec des matériaux locaux à 80%.
Et des subventions de la région.
Et subventions de la région. Oui.
Ouais,
et aussi, je crois, de subventions de l'Europe. Oui.
Et de l'Europe.
La CAPEB avait présenté un concours.
Oui, tout à fait. Ça a été inauguré avec le président Bourquin, je crois. Rural,
et on avait réussi le concours là, pour avoir quelques financements.
D'accord. Donc, c'est une maison exemplaire qu'il faut.
Au moins, on se rend compte.
Qu'il faut visiter.
Il faut venir la voir. Il faut profiter de la semaine de développement durable. Il y aura toujours du monde pour expliquer la conception de la maison et puis ce qu'on y fait dedans.
D'accord.
Très bien. Merci beaucoup.
Eh bien, merci.
C'est moi.
Bon courage. Puis continuez ce travail travail éducatif auprès de ces jeunes enfants, collège.
On a les élèves à éduquer, on a les artisans à former, et on a aussi les clients à convaincre. Donc, ça nous fait quand même du
plaisir. Ça fait beaucoup de boulot. Ouais. Et vous êtes combien pour faire tout ça à la CAPEB?
À la CAPEB, on est une douzaine de conseillers d'administration, mais il y a 150 ou 160 artisans inscrits à la CAPEB.
D'accord.
Ouais. Et on ne refuse pas de conseiller un artisan qui n'est pas inscrit à la CAPEB. On n'est pas des gens qui...
D'accord. Donc, même les artisans qui sont intéressés peuvent venir vous rencontrer à la maison des artisans.
Les artisans intéressés viennent nous rencontrer. Je peux me déplacer sur leur chantier, je peux les former.
Vous pensez que c'est une plus-value pour un artisan de savoir faire maintenant des maisons en béton de chanvre?
Ah oui, oui, oui.
Ouais.
On manque cruellement d'applicateurs. Et là, sur Mande, j'ai formé un artisan sur Mande qui a acheté la machine et qui est applicateur.
Et qui s'appelle comment?
Il s'appelle Laurence Gain.
Oui, d'accord, monsieur.
Et il est bien content d'être rentré dans la démarche parce que ça lui apporte des marchés alors qu'il avait un carnet de commandes qui était
un peu stagnant,
un peu triqué.
Ouais.
Et là, il a une vision à plus long terme et les chantiers continuent d'arriver. Quoi.
Oui, c'est de se rendre éco-responsable. De toute façon, je ne pense pas qu'il y ait simplement les clients à rendre responsables de tout ça. C'est chacun à son niveau, qu'on soit artisan, qu'on soit...
Les artisans sont les premiers responsables. Moi, je forme un artisan sur Mande parce que j'habite à Saint-Germain-de-Calberte, qui n'est pas éco-responsable de faire
des allers-retours
le matin et 5 km le soir pour venir faire du travail sur Mande alors qu'on a des artisans sur place.
C'est sûr, c'est sûr. Il y a beaucoup d'artisans, il y a très très peu de formés, même sur les maisons en briques aussi, c'est pas du tout... Il y a très très peu de gens qui se sont mis à le faire, alors que c'est dommage, quoi.
Les anciens artisans étaient un peu réticents à la formation.
Mais peut-être aussi sur les garanties décennales avec un manque de recul, non? Parce que c'est pas des matériaux, pourtant c'est des matériaux très très anciens, mais on a le sentiment qu'ils n'ont pas de recul ou qu'ils veulent pas prendre de risques, c'est ça un petit peu?
Quand le matériau n'a pas de DTU, il n'y a pas de garantie décennale dessus. Donc ça peut pas être utilisé dans les marchés publics, ça peut pas être utilisé dans certains cas, quoi. Un architecte qui gère un chantier demande systématiquement les garanties décennales.
Oui, c'est sûr.
Si le matériau n'a pas de DTU, pas de garantie décennale. Donc, hop, on élimine ce matériau. Le béton de chanvre a des règles professionnelles qui permettent de faire des extensions de garantie décennale.
D'accord, donc c'est déjà... Il faut peut-être aller plus loin, enfin, que le législateur aille un petit peu plus loin, peut-être, sur ça, non?
C'est beaucoup leur demander, moi. Je trouve que quand on demande un truc au législateur... Il ne sait pas faire le simple. Alors, si je demande d'aller plus loin, je crois qu'on est foutu.
Ouais, mais en même temps, une DTU, ce serait pas mal, quoi, sur un béton de chanvre.
Ouais. C'est Henri II qui avait ordonné d'enduire en terre crue toutes les maisons dans le Gers, hein, pour éviter la propagation du feu. À l'époque, il n'y avait pas d'ETU non plus. Hein. Et il y a encore des enduits en torchis qui tiennent debout. Ils ont 300 ans, 400 ans, je ne sais pas.
C'était une autre société. Ouais. C'était une autre société.
Oui, c'était une société qui était...
Plus proche peut-être de la Terre,
en tout cas. Plus proche de l'environnement et de la Terre, oui.
Ouais, du respect,
plutôt que des intérêts.
En tout cas, nous, on sera l'écho à chaque fois de toutes ces initiatives parce qu'il nous semble que c'est un problème national, que c'est un problème de santé publique et que c'est nécessaire de donner de l'information et d'éduquer les gens. Et que quand on construit une maison...
Et d'apporter des solutions,
de proposer des solutions. Et quand on construit une maison à 200 000 euros, en rajoutant peut-être 30 000 euros, on garantit sa maison.
Oui.
Du côté de la salubrité, mais il faut aussi dire une chose qui est très très importante et qui rentre jamais dans les calculs, c'est que les gens calculent à l'investissement mais pas du tout au fonctionnement. Et que finalement, ces 30 000 euros, sur 30 ou 40 ans, il les a récupérés 4 fois. Quoi, parce que on consomme moins.
Il n'y a pas besoin de tant que ça. Hein. Une maison en 1974 consommait 3 000 litres de gasoil ou 4 000 litres de gasoil, je ne me souviens plus. Et
maintenant,
avec la route de 2012, on est passé à 600 litres.
Ouais, 600 litres.
Bon,
en 2005, c'était à peu près 1500 litres. Là, on est passé à 600 litres.
Ouais. Donc,
finalement, les DTU, les RT, tout ça, c'est quand même un peu nécessaire.
C'est nécessaire au point de vue législatif. Vous prenez un matériau, un bon matériau, bien utilisé, il n'a pas besoin de DTU derrière. Hein. S'il est mal utilisé, c'est sûr, il faut prendre l'artisan et coller des beignes et puis faire comme ça.
Oui, ça, c'est une autre forme d'éducation. Ouais. Ouais. C'est mieux de convaincre quand même, là-bas.
Oui.
En tout cas, nous, on est satisfait de votre venue. On est convaincus, ouais, nous mettez pas des baffes.
Ça marche, hein.
Voilà.
Ça marche, les beignes. Mais là, bon, c'est un terrain un peu glissant. Ouais. Voilà. Un peu comme l'enduit. Voilà. Ben, merci beaucoup. Bonne semaine. Travaillez bien. Et puis, essayez de convaincre un maximum de monde pour que ces maisons soient belles et saines.
Voilà.
On va faire...
Merci beaucoup.
Merci à vous. On va faire une petite coupure musicale tout de suite. Et on reprend avec... tout de suite après, on va reprendre avec l'harmonie de Mende. Voilà, monsieur Loisel qui vient d'arriver dans nos studios.
48 FM Le Mag.
Harmonie demande, troisième et dernière partie de ce mag, avec Monsieur Louis Cloisel, donc chef d'orchestre de l'Harmonie demande, qui vient nous parler un petit peu du concert de printemps, du 5 avril, puis peut-être un petit peu faire un petit peu le point un peu sur cette harmonie qui a été créée il y a maintenant combien de temps ?
Novembre 2012. Bonjour. Novembre 2012.
Novembre 2012.
Voilà, donc ça fait un an et demi. Quoi.
Un an et demi, ouais. Un peu plus d'un an et demi. Ouais. Et qui compte combien de membres alors ?
On a une cinquantaine de musiciens maintenant. Donc,
amateurs ?
C'est constitué, oui, entièrement, que des musiciens amateurs. C'est constitué à la fois du vivier de l'école départementale de musique de Lozère, avec beaucoup de jeunes, la moitié de jeunes et puis la moitié d'adultes qui viennent à la fois la majorité de monde et quelques-uns d'extérieur.
D'accord, ça voilà. Se passe bien entre eux ?
Mais écoutez, pour moi, c'est l'essentiel. C'est la. Parce que je l'avais déjà expliqué quand on a démarré l'harmonie, c'est que moi, quand j'ai démarré l'harmonie, quand j'étais jeune, j'ai bénéficié de l'aide des adultes autour de moi. Et pour moi, c'est essentiel qu'à nouveau, ça soit
pareil. Cette transmission.
Il y a cette transmission des générations, ouais. Et que les plus jeunes aident les. Et que les plus anciens, pardon, aident les plus
peut-être
jeunes à se former.
Peut-être dans l'autre sens aussi, ça marche.
Oui, parce qu'il y a aussi des jeunes de l'école départementale qui sont déjà très performants.
Voilà. Et donc, ça donne quoi ? Ça donne une
osmose entre les plus jeunes et les plus anciens. Voilà,
sur un registre très très varié ?
Oui, sur un registre très très varié. C'est-à-dire que j'essaye de bâtir des programmes qui soient plaisants pour le public, mais aussi pour les musiciens. Que ce soit très éclectique, qu'il y ait un peu de tout en fait, à la fois de la musique de variété, la musique de jazz, la musique de film, aussi du répertoire classique, du répertoire original pour harmonie. Voilà, un peu de tout, et pour que chacun y trouve son compte,
d'accord.
Public et musicien.
Le rôle d'un chef d'orchestre, c'est d'arriver à faire d'abord des chefs. dans ce mot-là, ça veut dire qu'en gros, on commande, on met en œuvre, on harmonise.
C'est pas vraiment une commande, c'est plutôt pour moi, essayer de créer une osmose entre les musiciens et essayer de créer un son d'harmonie qui soit cohérent. Et qui soit...
C'est quoi un son d'harmonie ?
C'est
par rapport à un groupe de musique.
Ouais. Pardon ?
Par rapport à un groupe de musique lambda.
Eh bien, c'est particulier comme harmonie, c'est des instruments avant. Essayer d'avoir un son qui soit homogène entre les différentes familles d'instruments. Faire des nuances, avoir des couleurs, avoir
des variations.
Qu'on ait des notions de timbre, ouais. Entre les instruments, etc. C'est faire ressortir tout ça dans un programme.
D'accord. Donc, c'est aussi mettre peut-être. En valeur certains instruments par rapport à d'autres ?
C'est le cas, là, par exemple, de ce programme qu'on va jouer samedi donc, au théâtre, où dans certains morceaux, il y a la mise en valeur de certains pupitres. Par exemple,
d'accord.
Les pupitres de cuivre, dans d'autres morceaux, les pupitres de percussion, etc.
Donc, il y a combien d'instruments aujourd'hui ?
Dans l'harmonie ?
Oui. Une cinquantaine de billets, c'est ça ?
Oui, une cinquantaine de musiciens, mais donc il y a clarinette, flûte, saxophone, trompette, trombone, corps, tuba, percussion. Je crois que j'en ai pas oublié. Voilà. Donc la famille des instruments, des bois et des cuivres. Voilà.
D'accord. Essentiellement, c'est ce qui caractérise l'harmonie.
C'est un orchestre d'harmonie. C'est un orchestre composé exclusivement d'instruments à vent. Contrairement
d'accord.
À un orchestre symphonique qui intègre des instruments à cordes plus les vents.
D'accord. Comme les pianos, comme les choses comme ça.
Alors non, c'est encore
c'est à cordes. C'est un instrument à cordes, le piano.
Oui, mais dans un orchestre symphonique, souvent, le piano est plutôt instrument soliste, c'est-à-dire qu'on l'intègre, on appelle ça plutôt un concerto pour piano-orchestre, par exemple.
D'accord.
Voilà.
Très bien.
Voilà.
Non, il faut revenir aux bases, c'est
notre
des fois.
Spécialiste. Voilà. Non, mais c'est important de dire. Alors, c'est vrai que les fonctions ne sont pas forcément les mêmes non plus. C'est beaucoup plus mobile, on va dire. Une harmonie, ça permet de... d'aller à l'extérieur.
C'est pas du tout le même répertoire. Souvent, le répertoire de l'orchestre symphonique est plus un répertoire entièrement classique.
Alors que
le répertoire de l'orchestre harmonique peut être très très varié et très éclectique.
Film, voilà,
même de la musique de rue, etc. Donc voilà.
D'accord.
Et justement, est-ce que vous avez plusieurs formations ? Est-ce que vous sortez toujours tous les 48 ou est-ce que parfois vous jouez un moins ? Voilà,
Alors, l'harmonie est jeune, elle a un an et demi d'expérience et pour l'instant, elle est unique, c'est-à-dire qu'elle fonctionne
toujours ensemble.
D'accord.
Pour une question d'équilibre. Dans un répertoire donc, qui est très varié, on essaye de faire en sorte Moi, mon objectif prioritaire, c'est d'abord de créer un lien et de créer une osmose entre tous les musiciens.
D'accord.
Et voilà.
Oui, ce qui est nécessaire. De toute façon, il faut au moins plusieurs années de pratique pour arriver après en sortir peut-être autre chose. Mais déjà, bon, c'est faux aussi pour ça, l'harmonie, je pense. Hein.
Oui, tout à fait. Et puis après, peut-être dans un deuxième temps, se créera il peut se créer un groupe de fanfare de cuivre, par exemple, ou d'autres choses. Mais pour l'instant, l'objectif, c'est l'unité et la cohésion du groupe. Voilà, c'est ce qui m'importe le plus.
Est-ce qu'il sort du lot des gens qui ont des qualités que vous trouvez exceptionnelles?
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des jeunes comme des anciens qui ont du potentiel et qui sont un peu des moteurs dans certains pupitres. Quoi. C'est important de toute façon d'en avoir un peu dans tous les pupitres. Il y a des gens qui donnent de l'élan, qui donnent de la vivacité, qui aident, etc. Et il y en a quasiment dans tous les pupitres. Voilà.
Alors c'est une harmonie qui avait disparu parce qu'elle existait avant?
Alors là, je ne connais pas bien l'histoire, alors vous allez peut-être me... Avez...
Non, je ne connais pas bien, mais je sais qu'elle a eu existé, qu'elle a disparu, faute peut-être d'ambition et puis d'envie aussi, de gens qui se sont fatigués à tourner et qui avaient besoin d'un nouveau souffle. Aujourd'hui, c'est une association.
Oui, tout à fait.
Harmonie Demande, avec sous la présidence de Monsieur Moulin, c'est
tout
ça, Jean-Claude Moulin, voilà. Avec un bureau et donc qui a quand même aussi des objectifs particuliers. C'est aussi de mettre en valeur la présence de la ville de Mende sur certains événements, puisque là, donc je crois que vous faites le concert de printemps, c'est ça?
Oui,
vous pouvez nous en dire un petit peu plus.
Donc on se produit deux fois par an au théâtre. On s'est produit à l'automne pour un concert d'automne et puis là donc au printemps à chaque fois avec un programme différent. Et donc un programme, comme je vous l'ai dit, à nouveau très éclectique. Puis il y a des musiques de films comme...
Alors, combien de morceaux là jouez à peu près?
Il y en a une douzaine.
Une douzaine.
Par exemple, il y a la musique du film de Le Masque de Zorro. Il y a Les Aventures de Tintin. Mais il y a aussi un répertoire de musique populaire. Par exemple, une sérénade espagnole.
Ouais.
La mise en valeur d'un percussionniste qui va jouer du vibraphone. Une pièce soliste avec vibraphone. Aussi des pièces de jazz. Pièce classique, un extrait de l'opéra Les Indes Galantes de Rameau, et puis aussi du répertoire original pour harmonie, avec notamment deux pièces très difficiles, une de Gustav Holst, et puis une autre d'un compositeur contemporain néerlandais qui s'appelle Jacob de Haan.
Voilà.
Et dans nos missions, ce que vous rappeliez tout à l'heure, c'est que non seulement c'est la mise en valeur c'est une vitrine, comment dire, pour la ville, cette harmonie.
Oui, pour la ville.
Et c'est aussi insister sur notre participation depuis le début de l'année scolaire, aux cérémonies officielles, officielles de la ville.
Je crois que c'était un vœu, une demande très chère du maire de Mende.
Sénateur-maire
qui voulait, effectivement, parce que le constat, c'est qu'en 2008, quand il a demandé s'il y avait des musiciens pour interpréter... sur certains monuments, des morceaux, etc. C'est vrai que ça l'avait pas bien fait, on va dire ça comme ça. Et qu'à cet issue-là, il avait dit, c'est pas possible que le chef-lieu n'ait pas son harmonie et qu'on se donne pas les moyens d'y arriver. Ce qui a été fait, bien fait, avec vous, notamment.
Je pense que ça a été bien préparé par les artisans qui ont été Jean-François Berenguel et Jean-Claude Moulin. Voilà. Donc,
mais je pense aussi il faut aussi redonner un petit peu aussi le mérite qui vous revient, c'est-à-dire que des chefs d'orchestre, des chefs comme ça pour organiser, vous aviez l'expérience, je crois, sur d'autres lieux, d'autres collectivités. Parce que gérer 50 personnes, c'est franchement pas simple, avec des individualités, avec certains avec une histoire, d'autres sans histoire. Et d'arriver à faire de tout ça ce qu'on a déjà entendu, je trouve que c'est un sacré mérite et qui vous revient.
C'est-à-dire que chacun arrive à la répétition en oubliant ses soucis personnels, ses opinions personnelles, et chacun arrive pour un objectif qui est de partager et de faire de la musique ensemble. Et
de vivre ensemble un moment musical.
Exactement.
Cette adéquation, c'est lié au chef d'orchestre et on vous remercie.
Et c'est ça qui est très important de créer et de préserver.
Et de préserver. Et de trouver la continuité. Voilà,
exactement.
De favoriser ça. Donc vous intervenez combien de temps par semaine à peu près?
On répète de manière hebdomadaire chaque mercredi durant 2 heures. On prépare, à chaque fois, on prépare un programme de concert. Voilà.
Donc 2 heures par semaine, toutes les semaines.
Voilà, toutes les semaines.
Pendant les vacances scolaires aussi.
Non, hors vacances hors scolaires, vacances, sauf quelques fois quand il y a besoin. Voilà, ouais, exceptionnellement.
Pour les raccords avant,
voilà,
les,
c'est ça,
les concerts.
Voilà.
Donc justement, je rappelle la date du prochain concert, donc samedi 5 à 20h30 au théâtre. Et après, il y a d'autres choses de programmées. On parlait tout à l'heure de Wunsiedel, du jumelage.
Tout à fait. Donc,
Vous partez à Wunsiedel, c'est ça?
Oui, tout à fait. Dans le cadre du jumelage, nous partons donc durant le week-end de l'Ascension faire 2 concerts à Wunsiedel.
Un en salle
et un en extérieur.
Au
théâtre et un autre sur la place du marché. Voilà, on va faire 2 programmes de concerts différents et on emmène quasiment tout le monde vient pour ce déplacement un peu exceptionnel.
Et donc là, vous faites un programme un peu européen, un programme un peu marqué, non? Vous allez faire quoi?
Un programme très éclectique, voilà. Aussi, mais avec un peu ce qu'on jouera, ce qu'on jouera samedi prochain, ouais. plus d'autres morceaux, voilà.
D'accord. Voilà. Donc si on est intéressé aujourd'hui pour entrer dans l'harmonie, on fait comment?
Eh bien, vous pouvez me contacter directement ou je peux laisser mon numéro si c'est possible. Je ne sais pas si c'est possible ou
tout
pas.
Tout à fait, oui.
Donc, mon numéro portable, c'est le 06 52 23 17 51. Et évidemment, les portes de l'harmonie sont ouvertes à qui a envie de faire de la musique, partager de la musique.
Est-ce qu'il faut être musicien ou avoir un pédigré?
Ah oui, quand même, c'est indispensable.
Parce que moi, je ne suis pas musicien, mais j'adore taper sur une grosse caisse.
Il faut avoir un minimum de 4 ou 5 années de pratique instrumentale pour pouvoir intégrer l'harmonie. Quoi.
D'accord.
Voilà.
Donc, si ça vous intéresse, vous avez 4 ans pour vous former.
Et voilà, pour donc en tout cas, s'il y a des gens qui écoutent et qui ont envie de venir, la porte est ouverte et c'est absolument pas fermé. Et au contraire, plus il y aura de...
Vous n'êtes pas limité en nombre?
Non, je ne suis absolument pas limité en nombre.
On m'a dit que vous étiez limité en espace. Est-ce que c'est vrai?
Oui, parce que se pose pour l'instant le problème de la salle.
Et du stockage.
Et du stockage, et surtout du matériel de percussion, qui est un matériel très important. Ouais, et
très volumineux.
Et pour l'instant, nous baladons, on va dire, entre la salle de l'Antirouille et puis l'école départementale qui nous accueille. Et c'est vrai que ce n'est pas facile et que c'est une situation qui ne pourra pas durer éternellement dans le temps.
C'est sûr. Il y a des solutions à trouver pour faire en sorte que l'harmonie, il y a un peu de confort en tout cas sur à la fois le stockage et les répétitions. Si vous répétez 2 heures par semaine, c'est important de trouver un lieu
et
adapté.
Il faut savoir que le déménagement chaque semaine du matériel de percussion impose de trouver à chaque fois des bénévoles de l'harmonie.
C'est des contraintes.
C'est quand même fatigant.
C'est des contraintes supplémentaires qui n'amènent pas une certaine sérénité avant de jouer, c'est sûr.
Exactement.
D'accord. C'est peut-être pas très bon en plus, même pour les instruments.
Ah oui, tout à fait. Le transport des timbales, tout le matériel de percussion est très fragile, donc à chaque fois, on fragilise un peu plus tout cela. Voilà.
Oui. D'accord. Mais je crois que c'est surtout que... C'est à l'étude actuellement.
Oui, tout à fait.
Jean-François et Jean-Claude travaillent là, pour essayer de trouver des solutions pour pouvoir à la fois vous accueillir sur un espace, pas forcément dédié, parce que 2 heures par semaine, ça fait...
Mais un espace suffisamment grand pour suffisamment qu'on ne soit pas les 3.
Ouais.
Voilà.
Oui, c'est sûr qu'à 50 musiciens, ça ne rentre pas n'importe où. Quoi.
Exactement. Là, actuellement, nous sommes pour l'instant à l'EDML et nous sommes très à l'étroit dans une salle qui est beaucoup trop étroite
pour 50 personnes.
Exactement.
Ouais, peut-être une future salle de musique.
Waouh.
Ce serait cool. Hein. Bon, on verra ça. Avec les élus concernés, voilà, on va dire ça comme ça. Vous faites aussi une autre action, je crois, concernant le jumelage avec Mont de Volterra qui a été sinistré par des pluies torrentielles.
Oui, tout à fait. Donc, lors du concert de samedi prochain, on proposera un chapeau au public, si on joue bien. Et ce chapeau sera entièrement remis à l'association qui gère
le sinistre de Volterra. Ouais, d'accord. Ouais. Voilà. Une bonne action, un peu à la star de 48 de cœur. Hein.
Voilà.
C'est important, cette solidarité entre des villes jumelées. Voilà. On a fait un petit peu le tour. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à la fois à vos musiciens et... Vous ne pourriez pas nous faire un de ces jours une retransmission là?
Il faut que ce soit vous qui vous déplaciez.
Alors nous, on fait du direct. On est capables. Nous.
Venez.
Voilà. Parce que vous n'êtes pas sonorisé, de toute façon, sur le
non.
plateau.
Non, un orchestre d'harmonie n'est jamais sonorisé. Comme un orchestre symphonique, il n'y a pas besoin.
Il y a assez de volume pour courir. Voilà. Donc ce sera à nous de sonoriser. Mais bon, c'est peut-être un pari, un défi qu'on pourrait se lancer, parce que je pense que c'est intéressant. Alors, vous êtes extrêmement suivi par la population. Le dernier concert, vous aviez combien de... C'était quasiment plein.
C'était quasiment plein, oui.
Ouais, 980 places.
Ouais. Donc, j'espère qu'il y aura du monde samedi. Voilà. Moi, je vous invite tous à venir écouter de la belle musique et à partager des bons moments musicaux.
À quel tarif
c'est entièrement gratuit.
C'est entièrement gratuit. Voilà.
Donc il n'y a vraiment aucune excuse pour pas aucune venir excuse samedi pour soir découvrir. Vous écouter.
À la fois, très beau morceau de musique. Moi, ce que j'ai écouté la dernière fois, j'ai trouvé ça magnifique. Après un an de travail à peine, c'est superbe. Et puis en même temps, c'est gratuit. Puis vous pouvez voir vos amis, vos voisins, vos voisines jouer. Et je pense que ça, c'est sympa. Quoi.
Ça peut susciter des envies, des vocations. Enfin, voilà.
Ouais, puis ça valorise les gens qui s'investissent dans le monde associatif. Et c'est vraiment très bien. Et voilà, et au nom de l'association, je voulais vraiment vous remercier pour le travail que vous faites, parce que c'est très important.
Merci.
Voilà. Merci, monsieur Loïc Loisel. À bientôt. Bonne tournée. Donc, à vous, Zidel. Et puis, essayez de montrer les belles couleurs de la ville de Mende à travers cet aspect musical. C'est important.
Merci.
Voilà, cette émission touche à sa fin. Merci.
Merci à
tout le monde d'y avoir participé. Et puis, voilà, aussi à nos différentes rencontres d'aujourd'hui. À bientôt. Cette émission sera retransmise jeudi à 18h11 et samedi prochain à 11h. À la semaine prochaine.